Hello, vous écoutez espacekeola.com. C'est Shinta qui vous parle. Elle aimerait vous raconter son histoire. Vous reconnaissez cette mélodie, n'est-ce pas? Oui, c'est le clair de lune de Debussy. C'est moi qui joue sur mon vieux Yamaha quart de queue. Je l'adore. Cette mélodie parle de moi mieux que les mots. C'est doux, ça nous transporte au-dedans et touche une corde sensible. Celle du cœur? Il y a de la nostalgie, une invitation à s'aventurer là-haut, dans le grand espace, en compagnie des astres. C'est l'appel du mystère qui fait naître l'espoir et une immense joie. Voilà, vous aurez tout compris de moi, je suis un être lunaire, né un samedi 13 septembre à 5 minutes du matin. Le soleil se levait dans le signe du cancer, et ma lune s'y trouvait également, formant un joli carré avec mon soleil en vierge. Bon, mais qu'on se rassure, il y a les ressources de toutes les autres planètes. Né donc un 13, j'ai échappé de justesse au vendredi. À Zurich, dans une famille où les trois premières places étaient déjà occupées. Une sœur, un frère, puis une autre sœur, tous beaucoup plus âgés que moi. J'étais la petite dernière qui s'était accrochée de toutes ses forces à son petit bout de vie dans le ventre de maman. Car en 1952, maman avait déjà trois enfants et de graves problèmes de santé. Les médecins lui avaient donné le choix soit de me garder au risque de laisser derrière elle trois orphelins et un veuf, soit d'avorter. Et oui, il y a 70 ans, c'était ainsi. On imagine la cruauté du dilemme, le stress psychique, physique. Je n'étais pas à la perspective heureuse d'une nouvelle vie, mais une menace de mort, quoi qu'on décide. Mais qu'on ne nous jette pas la pierre, ni à moi, ni aux médecins. Voilà donc maman qui va qu'à ses nombreuses occupations, les enfants, le ménage, père absent la semaine pour son travail. Et avec le ventre qui s'alourdit, s'intensifie aussi la pression de devoir prendre une décision. En plus, maman portait le deuil de son père qui venait de mourir par suite d'un accident de moto. Quel courage il t'a fallu, maman. Pardonne-moi. Quelle situation impossible. Heureusement, par une belle nuit de pleine lune, maman a eu un songe. Dans ce songe, son père, donc mon grand-père, lui est apparu dans l'ouverture d'une fenêtre. Il me tenait dans ses bras et lui a dit « Tiens, prends ton enfant. » Et nous avons vécu toutes les deux. À partir de ce moment, tout est allé plutôt bien. Je suis née à la maison, entourée de mes frères et sœurs. Il devait y avoir aussi une sage-femme, mais selon les récits, ce seraient les grands qui auraient assuré. Papa a sauté dans le premier train, il travaillait à Lausanne. Hélas, avec la nouvellement née, c'était un nouveau fardeau qui allait encombrer la famille. Une douzaine d'yeux consternés étaient fixés sur ce bébé qui, lui, en toute innocence, criait simplement sa joie d'être au monde. Mes deux pieds ne regardaient pas dans la même direction. Celui de droite était tourné vers le passé, alors que celui de gauche pointait hardiment vers le futur. Ce n'était pas une tare génétique. Dans le ventre de maman, peut-être sous l'effet du stress moi aussi, je m'étais coincé le pied dans le creux du genou de l'autre jambe. Pour la famille, c'était compliqué, médecin, surcharge, honte aussi, mon père accusé d'avoir transmis des gènes anormaux, alors que les médecins avaient confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un problème génétique. On s'occupait beaucoup de moi, mais je dérangeais énormément. je ne faisais pas vraiment partie du clan. Quant à moi, dans un premier temps, j'ai adoré toute cette attention qu'on me portait, mais tout de même, je savais obscurément que quelque chose clochait, et à peu s'est installé en moi un doute. Des questions qui ne parvenaient pas à se formuler et qui n'arrivaient pas clairement à ma conscience. Je ne me souviens pas d'avoir été consolée ou qu'on m'ait expliqué les choses. Au contraire, la famille allait au resto ou au cinéma et me laissait seule à la maison. C'était inexplicable pour moi. Pourtant, j'étais une enfant sage. Mais on s'occupait très bien de ce pied. Pour éviter la chirurgie, un médecin fabuleux de Zurich avait proposé qu'on redresse peu à peu le pied au moyen d'une attelle qu'on resserrait chaque semaine. L'autre jambe était dans un plâtre pour que je ne me blesse pas. Mais cette méthode m'a coûté une année d'immobilisation des deux jambes, ma première année de vie. Toutefois, à partir de 7 ans, j'ai pu abandonner les chaussures montantes qui soutenaient la cheville et j'ai pu pratiquer du sport sans restriction. J'étais dans l'équipe de basket du collège, j'ai fait du judo, gymnase et du ski, à fond, jusqu'à très récemment. Maintenant, je fais du tennis de table. Ping-pong, ping-pong. On se souvient que papa travaillait à Lausanne, alors que la famille vivait à Zurich. Il rentrait le week-end. À cette époque, on travaillait encore le samedi matin, et avec les 3 heures de train, nous ne le voyions qu'en fin d'après-midi et le dimanche. Une situation inconfortable qui s'est dénouée le jour où toute la famille s'est installée à Belmont, dans la petite maison que mes parents avaient fait construire. Dans un cadre tout simplement idyllique, un grand jardin, 2 villas voisines et tout le reste en champs et en forêt, se déversant en pente douce vers le lac. C'était en solitaire que j'explorais ces dégradés de verre, puisque le reste de la fratrie était déjà aux études. Mais je pouvais courir, libre, en totale jouissance de mon corps. Les arbres, les petites herbes, les papillons étaient mes grands copains. Parfois, une famille de chevreuils même venait s'ébrouer dans les prés. Je me souviens bien sûr de la sensation de l'air pur dans les narines, chargé de délicieuses senteurs, du bonheur de vivre dans les mélodies à Vienne. Un paradis vraiment, une nature qui était devenue ma famille d'accueil. Sinon, j'étais seule. Je sentais qu'une sorte d'enveloppe ouatée me séparait des autres, mais je me sentais bien protégée comme ça. Et, en même temps, je me sentais bien vivante. Je jouissais à loisir de ma grande sensibilité, de mon imagination fertile. Bref, j'évoluais dans mon monde à moi. Je faisais des cauchemars, bien sûr. J'étais somnambule. Mais on n'en parlait pas. Tout ça, ça se passait dehors. Moi, dedans. J'étais bien. Et à l'école, le mouton noir. D'abord, j'ai sauté la première année parce que je savais déjà lire et écrire. Ensuite, j'étais la Stobirne. Et oui, j'étais suisse-allemande dans une école de village vaudois. À la maison, on parlait le suisse-allemand, mais il me semble qu'à l'école, je parlais le français sans accent. Pourtant, j'étais marquée, surtout par l'instituteur dont la profonde détestation du suisse-allemand se focalisait sur moi. Non seulement il n'aimait pas mes dessins, mais il s'en moquait ouvertement devant la classe et à la moindre occasion, il inscrivait des remarques rageuses dans mon carnet. À l'écart, là aussi donc. Par protestation, je me suis assise au fond de la classe à côté de l'idiot du village qui, à 15 ans, refaisait sa 4e année primaire, lui aussi rejeté. Ainsi, nous étions deux. Cela ne m'a pas empêché d'adorer apprendre et surtout de réussir mon examen au collège classique secondaire de Béthusy, dans la belle ville de Lausanne. J'étais bloquée émotionnellement, je rencontrais des difficultés à communiquer, mais j'étais heureuse dans mon monde, un peu autiste probablement. Encore une fois, j'adorais apprendre. Je bouffais les connaissances avec la même délectation que les plaques de chocolat. Mes frères et sœurs avaient quitté le nid, et maman était contente d'avoir à s'occuper de moi. Elle me communiquait son extraordinaire joie de vivre, son amour de la musique et de la nature, sa vraie nature en somme. Un jour, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, en présence de la famille réunie au complet, maman m'a demandé si je voulais un piano et prendre des leçons. « Oh oui, un piano !» J'ai adoré, fait mes gammes tous les jours, et après quelques années, je ne jouais pas trop mal, par exemple, la pathétique de Beethoven. Je m'immergeais tout entière dans la symphonie complexe des sons. Ils font vibrer les cordes de la sensibilité et libèrent les émotions. C'est par le piano que j'ai eu accès à mon intériorité et que j'ai été nourrie. D'une certaine manière, c'était déjà une forme de méditation. En somme, maman s'est donnée à fond pour que je puisse étudier et me réaliser. Merci, maman. Mais à d'autres moments, elle déversait sur moi de la hargne, de la frustration et ce qui faisait le plus mal, du mépris. Maman était bipolaire. Papa, lui, ne parlait pas. Il travaillait. Nous n'avons jamais eu aucune conversation. Tout passait par maman. Mais de papa, je garde tout de même une infinie tendresse, beaucoup d'intelligence. Technicien la semaine, artiste et alpiniste le week-end, j'imagine que son mutisme n'était pas vraiment son choix. J'ai failli le perdre par 2 fois. Un accident vasculaire cérébral et une tentative de suicide. On comprend comment les études et le piano sont devenus mon refuge bouquiné. Je lisais des romans jour et nuit, mais j'étais aussi douée en maths. Bref, j'ai suivi le cursus, réussi un master en lettres et suis devenue enseignante. À 28 ans, me voilà donc installée dans la vie. Je vis avec des collègues trotskistes dans une magnifique maison de maître. J'ai été nommée à vie pour un poste d'allemand et français au collège secondaire de La Planta, ce qui m'assure une sécurité professionnelle et me laisse passablement de temps libre. En parallèle, je mène une vie amoureuse relativement libre, un malheureux avortement, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant, je suis en pleine déprime, je me lève le matin, donne mes cours, parviens tout juste à préparer ceux du lendemain et je m'endors. Cette fois-ci, j'avais vraiment tout perdu, même ma précieuse petite étoile intérieure, ma source vive, j'étais devenue zombie. Une certaine mécanique accomplissait des gestes du quotidien, mais moi, j'étais absente. Par chance, j'avais rencontré lors de mon stage pédagogique quelques collègues intéressantes qui vivaient aussi en communauté, mais avec une orientation moins politique que la mienne. Là-bas, on s'intéressait aux nouvelles méthodes de la psychologie humaniste, dynamique de groupe, bioénergie, rebirthing, entre autres. Consciente de mes difficultés à communiquer, surtout en tant qu'enseignante, je m'étais inscrite aux ateliers de biodynamique selon Gerda Boyesen. Comme son nom l'indique, la biodynamique privilégie la remise en route des courants vitaux et l'équilibre des cycles naturels. Pour cela, elle s'appuie sur l'existence d'une personnalité primaire, riche et vivante, présente au fond de chaque être humain, qu'elle va chercher à retrouver et nourrir. Les outils et l'attitude utilisée s'allient au noyau profond pour que celui-ci devienne le moteur essentiel du processus de changement vers plus de vie et d'épanouissement, sans stimuler les résistances névrotiques de la personne. En fait, les longues années d'études avaient renforcé la scission entre le corps et le mental déjà amorcée dans l'enfance. Avec cette méthode, la vie avait une fois de plus opéré un miracle, en me l'offrant exactement au moment où j'en avais besoin. C'est sans regret que j'ai quitté l'engagement politique. Il m'était apparu clairement qu'aucune révolution, aucun système politique n'allait vraiment résoudre les problèmes de l'humanité. Je voyais plutôt une chance au niveau de la transformation des individus. En effet, si chacun se libère de son enveloppe égotique, si nous prenons tous la responsabilité de notre contribution dans la société, un nouveau monde peut émerger. Cette idée avait le vent en poupe. Souvenez-vous du mouvement de mai 68 en France, du mouvement contre la guerre du Vietnam aux États-Unis, le mouvement hippie Peace and Love. On a de la peine à imaginer de nos jours l'ampleur du tsunami qui a tenté de casser les chaînes du conditionnement dans les années 70 en Occident. Nous étions sûrs qu'on y arriverait. Plus jamais la guerre. Notre futur était libre, lumineux. On allait créer ensemble un monde plus heureux et plus juste. Eh bien, de retour à la biodynamique, un atelier d'un week-end a suffi pour que je retrouve le chemin vers ma précieuse source intérieure. Quel bien ça fait de sauter, danser, crier, pleurer, exprimer ses émotions et être entendu. Je me souviens d'un week-end en particulier. Le vendredi, je fumais encore un paquet de Gaulois sans filtre par jour, et le dimanche soir, il m'était impossible d'avaler la moindre volute de fumée. Youhou ! Mon corps avait repris ses droits. À bientôt pour la suite. Thank you.